Vous l'avez compris, sur France Culture dans les matins, on va évoquer les résultats de cette élection européenne avec des Européens. On va faire un tour d'Europe. Dans ce studio, nous ne sommes pas 30, mais nous, on est quand même nombreux avec différents correspondants de la presse européenne qui vont vous dire comment ça s'est passé dans leur pays et puis quel regard ils portent sur ces élections. Je vous les présente. Marc Bassetz, bonjour. Vous êtes correspondant pour le quotidien El País espagnol, donc. Donc, Maya Szymanowska, bonjour, vous êtes bonjour. Journaliste spécialiste de la Pologne, vous êtes auteur de reportages radiophoniques écrits et télévisuels et vous allez donc nous donner un peu des nouvelles de la Pologne. Stefano Montefiori, bonjour, vous bonjour. Êtes correspondant italien pour le quotidien Corriere della Sera. Dani Leder, nous étions avec vous il y a quelques instants, vous êtes correspondant autrichien pour le quotidien Courir. Et enfin, Birgit Holzer, vous êtes correspondante pour une douzaine de titres de la presse régionale allemande, notamment le quotidien Berliner Zeitung et aussi le RND qui est à Hanovre. Birgit Holzer, que s'est-il passé en Allemagne ?
En Allemagne, la grande coalition, comme on dit, donc la coalition du parti de Angela Merkel, CDU, CSU, et le SPD, donc les sociodémocrates, ont perdu, on peut dire comme ça. Ils ont perdu beaucoup de points vis-à-vis des dernières élections européennes. En même temps, les Verts ont énormément monté. Ils ont plus de 20%, ce qui est un score assez inédit. Ils ont
C'était une surprise.
On a déjà vu pendant les dernières élections régionales. On les a déjà vus monter aussi aux dernières élections nationales. Et on a déjà vu dans les sondages aussi que c'est un parti qui parle plus aux gens, qui parle surtout plus aux jeunes. C'est le premier parti des jeunes qui ont voté pour eux avec plus que 30%. En même temps, ce qu'on peut dire aussi, c'est l'extrême droite, AfD, Alternative für Deutschland, a monté aussi, a progressé, mais moins que prévu dans certains sondages. Ce qui est intéressant quand on regarde plus près les résultats en Allemagne, c'est qu'il y a un fort clivage entre l'ex-RDA, donc l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Dans l'Allemagne de l'Est, la AfD, donc l'extrême droite, les populistes de droite, sont en partie, premier parti, il y a plusieurs Länder, trois Länder, où ils ont en tête, alors que en Allemagne de l'Ouest, c'est souvent les Verts. Ça dépend ou la CDU ou de Angela Merkel. Donc on voit un fort clivage entre les deux parties de l'Allemagne.
Passons maintenant à la Pologne avec vous, Maya Szymanowska. Quels enseignements tirer de ces élections ?
Alors, ces élections ont été une surprise si on se place du côté des libéraux qui voulaient, qui ont créé un grand franc de rassemblement contre les conservateurs au pouvoir. Mais ces élections, malheureusement, montrent l'assise profonde, finalement, maintenant, des conservateurs du PiS, du droit et de la justice, menés par Jarosław Kaczyński, le frère jumeau du président disparu dans cette fameuse catastrophe d'avion il y a quelques années. Donc on voit que la société polonaise est vraiment partagée en deux, encore plus que la France, et que toute cette élection s'est jouée justement sur des questions finalement d'ordre de politique intérieure.
Par exemple
justement l'ouverture ou pas à l'Europe, à l'étranger, les allocations familiales surtout mises en avant par les conservateurs au pouvoir qui ont un peu siphonné les anciens électeurs de gauche en Pologne, parce que le grand problème finalement de la Pologne, c'est l'absence d'un parti de gauche.
Comment vous l'expliquez ?
Alors, ça s'explique très facilement, peut-être par l'histoire, étant donné que la Pologne, comme tout le bloc Est, un lourd passé communiste, de dictature, finalement. Et donc, les partis de gauche n'ont pas su, finalement, se mettre un peu à distance ce lourd héritage. Donc, nous voyons quand même une percée assez étonnante pour un pays ultra-catholique comme la Pologne. C'est la percée du parti Le Printemps, le parti de Robert Biedroń, qui est un qui est un militant des droits des LGBT, qui ouvertement est pro-européen, très socialiste, et qui était le seul, et peut-être ça c'était intelligent de sa part, à dire que finalement l'introduction des allocations familiales en Pologne était un bon point de la part des conservateurs. Parce que les Polonais, visiblement, en tout cas une partie de la population, ont un petit peu ras la casquette de ce libéralisme à tout craint que la Pologne a connu dans les années 90.
Mais alors, précisément, qui porte la question sociale des revendications sociales en Pologne, Maja Szymanowska?
Ben, finalement, je crois que tout se joue autour de ces questions sociales, vu la grande présence finalement et pression de l'Église catholique en Pologne. Je crois que la victoire des conservateurs est due aussi à un pacte qu'ils ont signé avec l'Église catholique et surtout son aile la plus ultra-conservatrice. C'est aussi la victoire de toute la machine de droit et de la justice. La machine, c'est-à-dire la propagande, la mise au pas des médias publics, donc la propagande distillée via les médias publics, la mise au pas de la justice et cette alliance avec l'Église catholique la plus ultra.
L'Espagne, avec vous, Marc Bassets, vous êtes correspondant d'El País. Quels enseignements tirer à ce sujet?
Alors, il faut dire d'abord qu'en Espagne, il y avait des élections européennes, mais il y avait aussi des élections régionales et municipales. Et qu'il y a un mois, il y a eu les élections législatives. Donc, il y a eu beaucoup d'élections récemment. Et les européennes étaient un peu cachées par tout ce contexte. Les leçons, et surtout si on regarde le panorama européen et particulièrement français, on pourrait dire qu'en Espagne, le vieux monde gagne. Le Parti socialiste ouvrier espagnol, le vieux PSOE, est clairement le parti dominant dans ces élections. À une certaine distance, il y a le Parti populaire, la droite traditionnelle, ce qu'en France serait les Républicains. Ciudadanos, le nouveau parti, fondé il y a une décennie, de centre réformiste qui se voudrait le En Marche espagnol et qui avait l'aspiration, après les législatives d'il y a un mois, de se substituer au Parti populaire comme grand parti de centre-droit dans l'opposition. Il perd des positions et il est très clairement le troisième parti. Il n'a pas réussi la mise de devenir le parti principal de l'opposition. Et finalement, il y a Vox, le nouveau parti d'extrême droite, qui est arrivé sur la scène politique il y a un mois dans les élections législatives. Ils perdent aussi par rapport aux législatives. Ils ont 6% de voix dans les européennes. C'est pas un phénomène extraordinaire comme dans d'autres pays européens.
Bon, alors ça renvoie un peu à ce que l'on a vu en Autriche dans un contexte tout à fait différent, Dani Leder, vous qui êtes correspondant pour le magazine Courir. L'extrême droite n'a pas obtenu le score escompté. Rappelez-nous dans quel contexte il y a eu donc cette diminution des voix pour le parti d'extrême droite.
Oui, les élections en Autriche ont été totalement, plus que même peut-être ailleurs, chevauchées par la crise interne, puisque le gouvernement entre la droite classique, dirigée par le jeune chancelier Sébastien Kurz, et la droite radicale vient d'exploser. Suite à ce fameux scandale Ibiza, bon, je ne vais pas rappeler les détails, ça a amené à la démission dans un premier temps du vice-chancelier qui était le leader de l'extrême droite et ensuite le chancelier a décidé l'épreuve de force avec son partenaire de la droite radicale et ça a fini avec la démission de tous les ministres de l'extrême droite. Bon, et maintenant le résultat est que ce chancelier Sébastien Kurz qui a initié la coalition avec la droite radicale, mais qui maintenant s'est séparé d'elle dans un geste qui paraissait très fort, a raflé la mise. Hein, il est le grand vainqueur de cette élection. Il le sera probablement lors des législatives prématurées qui sont actées pour septembre.
Stefano Montefiori, alors on a fait un tour d'horizon. On voit finalement que les partis populistes, j'utilise un terme qui ne vous plaira pas, peut-être pas, mais en tout cas, le terme usuel, ces partis populistes n'ont pas partout obtenu de bons scores. Dans votre pays, l'Italie, puisque vous êtes correspondant du Corriere della Sera, la situation est assez différente à cet égard.
Oui, parce que les partis populistes, parce que d'ailleurs, ils se revendiquent en tant que tels.
C'est simple.
Oui, c'est simple. De la Ligue a obtenu un score extraordinaire, c'est-à-dire Matteo Salvini a doublé les résultats des élections législatives d'il y a un an. Il est allé au gouvernement grâce aux 17% de mars 2018. Là, il surpasse les 30% et donc il double carrément les résultats de ses alliés du gouvernement, le mouvement 5 étoiles, à leur tour populiste. Donc là, en Italie, le camp populiste, souverainiste, disons comme ça, a carrément gagné les élections. Après,
sur des enjeux nationaux ou européens?
Les deux, c'est-à-dire avec une rhétorique contre l'Union européenne, contre Bruxelles, assez marquée. L'enjeu national était plutôt de voir quel était l'équilibre entre les deux alliés des gouvernements, dans la coalition des gouvernements. Le mouvement 5 étoiles est précipité dans une grande crise. D'ailleurs, c'est aussi le problème du président du Conseil, du premier Giuseppe Conte, qui est expression du mouvement 5 étoiles et qui là est complètement affaibli et par rapport au vrai homme fort du gouvernement italien, Matteo Salvini.
Comment vous expliquez cette situation? Parce que finalement, il y a eu beaucoup de discours de Matteo Salvini et, d'après ce qu'on lit dans la presse italienne, assez peu d'actes.
Oui, mais comme on disait tout à l'heure, le populisme en Italie aussi, c'est un peu ça, c'est-à-dire beaucoup de déclarations, la promesse que tous les problèmes vont être résolus. Hier soir encore, Matteo Salvini promettait une nouvelle vie pour les familles, pour l'économie, comme si c'était le paradis qui était en train d'arriver. Après, les faits sont très différents. Mais néanmoins, ça donne des illusions, des espoirs aux électeurs.
Bon, finalement, dans vos pays respectifs, on a affaire là aussi à des élections qui se sont déroulées sur fond d'enjeux nationaux. C'est ce que vous disiez, Maya Szymanowska. On est essentiellement sur la question de politique intérieure en Pologne.
Surtout que ces élections européennes ont été un petit peu le tour de chauffe et présentées comme telles d'ailleurs par les conservateurs au pouvoir, des élections législatives qui auront lieu en Pologne à l'automne. Donc voilà, pour l'opposition, c'était l'opportunité pour compter les voix, pour resserrer les rangs, mais vu leurs résultats finalement décevants pour eux-mêmes, ils ont 22 sièges probablement sur les 52 députés européens pour la Pologne, contre 27 pour les conservateurs. Or, on voit la faiblesse peut-être de cette coalition, parce qu'elle est très large. Elle commence par les libéraux, c'est le deuxième parti finalement le plus fort en Pologne, la plateforme civique, mais qui compte aussi les anciens sociaux-démocrates. Donc on va voir si cette coalition va pouvoir tenir jusqu'aux élections de l'automne.
Birgit Holzer, qu'en est-il en Allemagne? Là aussi, on a voté pour des questions nationales.
On a voté pour des questions nationales, mais on s'est rendu compte aussi que les questions ou des questions nationales sont liées à des questions européennes. Donc des sujets comme la migration, mais aussi le changement climatique étaient les sujets les plus forts pendant cette campagne-là, avec la mobilisation des jeunes ou des élèves le vendredi pour le climat. Ça a eu un écho très très fort en Allemagne. Ça explique aussi pourquoi les Verts, qui sont vus comme compétents pour ces sujets-là,
Ils sont perçus comme étant de gauche, de droite, chez vous, Birgit Holzer?
Ils sont conçus comme de gauche. Ils ont gouverné dans une alliance avec les sociodémocrates il y a quelques années. C'est toujours aussi un avantage pour un parti d'être dans l'opposition, parce qu'on peut proposer sans avoir la responsabilité de gouverner, forcément. Mais je pense qu'au final, ce résultat est aussi une claque pour les partis traditionnels qui savent pas du tout montrer où ils vont, qui sont dans une gestion de crise, mais pas plus que ça, alors que les Verts, ils donnent en ce moment une image moderne qui donne envie, qui parle plutôt aux bobos allemands, je dirais, des grandes villes, mais qui ont su convaincre cette fois-ci.
Tiens, d'ailleurs, en Espagne, par exemple, est-ce que les Verts compte? On a vu qu'en France, ils avaient tenu un score qui n'était pas escompté. Qu'est-ce qui s'est passé en Espagne, Marc Bassette?
Non, en Espagne, les Verts ne comptent pas. C'est pas une force. C'est une force dans les partis, peut-être. Dans les partis de gauche, il y a dans leur programme des revendications qui sont communes aux partis écologistes dans notre pays.
Comment vous expliquez ça?
J'ai pas d'explication, vraiment. Il y a déjà un système politique très, très écartelé, avec beaucoup de partis. Le phénomène nouveau a été plutôt dans notre ordre dans les dernières années. A été le nouveau centre de Ciudadanos, comme mentionné avant. A été Podemos aussi, la gauche populiste qui
Mais
est arrivée avec la
l'écologie,
crise.
Non, c'est...
Pas l'écologie.
Et en Pologne, Maja Szymanowska.
C'est le pays du charbon. C'est compliqué, non. Effectivement, là. L'écologie, mais ce sont des sujets qui sont portés plutôt par l'opposition et par ce nouveau parti, le Printemps. Oui. Alors après, la différence est peut-être entre la Pologne de l'Ouest, parce qu'on voit les résultats très clairement coupent la Pologne en deux, entre l'Ouest qui a voté... plus proche de l'Europe, qui a voté libéraux, et justement qui est plus sensible peut-être à ces questions environnementales, et l'Est, qui a voté conservateur, avec Varsovie, qui a voté surtout, justement, la nouvelle... le printemps.
Daniel Eder pour l'Autriche.
Oui, il faut relever un parallélisme frappant entre les résultats français et autrichiens. C'est d'ailleurs pas le seul. C'est le résultat quasiment à la virgule près pareil, la percée à la virgule près des Verts autrichiens. Ils sont à 13%. Ils sont refait une santé, notamment au détriment des sociodémocrates autrichiens, mais qui eux
aussi,
pour le coup,
ils sont à gauche.
Les Verts, oui, oui, ils incarnent quand même une opposition assez conséquente vis-à-vis du gouvernement en place. C'est d'ailleurs, ça leur a profité et moins aux sociodémocrates, mais qui sont quand même à un niveau nettement plus élevé que les Français qui viennent de s'effondrer.
Et chez vous, Stefano Montefiori, autrement dit en Italie, et vous êtes correspondant pour le Corriere della Sera.
Oui et non, en Italie, les Verts n'existent pas quasiment, et n'ont pas réussi à franchir la barre de 4% qui était nécessaire en Italie pour amener des députés au Parlement européen.
Alors, qui porte les idées écologistes, si des partis les portent d'ailleurs en Italie.
Oui, un peu, de façon un peu confuse, mais par exemple, le mouvement 5 étoiles a fait l'une de ses batailles principales dans l'opposition au projet de lignes à haute vitesse Lyon-Turin avec des argumentations plutôt ambientalistes, la protection de la montagne, de l'environnement, et ça c'est disons un thème qui traverse un peu toutes les forces politiques. Après ce n'est pas central, l'environnement dans les préoccupations des partis politiques italiens. J'ai l'impression que ça soit considéré un peu comme une préoccupation de luxe, c'est-à-dire en ce moment en Italie il y a une crise économique qui est encore très très forte, il y a une sorte de récession, le chômage très haut, et les thèmes écologistes sont perçus comme quelque chose dont on parlera après.
Nous nous retrouvons avec nos 5 correspondants européens. Je vous rappelle leurs noms. Daniel Eder pour l'Autriche, Birgit Holzer pour l'Allemagne, Stefano Montefiori est italien puisqu'il est correspondant pour le Corriere della Sera, Maja Szymanowska qui va nous parler notamment de Pologne, et enfin Marc Basset pour El País, autrement dit un quotidien espagnol. On se retrouve dans une vingtaine de minutes, et cette fois-ci on va voir comment le populisme s'est incarné dans ces élections, et puis comment la question sociale, elle aussi, se traduit dans les traditions nationales respectives que vous représentez ici. 8h sur France Culture, très bon réveil à tous.
Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le billet politique, Frédéric Seize, que nous enseigne la débâcle de la droite?
En Chine, le chiffre 8 porte bonheur. En France, il est celui du désarroi pour le parti Les Républicains. 8 petits pourcents pour la droite, 8% pour cette famille politique qui a tout de même donné 5 présidents à la France depuis l'après-guerre, 8% pour le premier parti d'opposition en nombre de parlementaires. C'est sans doute l'événement majeur des résultats de ces européennes en France. On l'évoquait dans le billet politique de vendredi dernier, cette fausse dynamique de la droite, loin de son score de 21% au dernier scrutin européen, on croyait être un peu sévère, on était encore trop gentil. Hier soir, ce ne fut pas seulement une contre-performance, mais une déroute radicale. Voici quelques exemples pour en mesurer toutes les facettes. À Neuilly-sur-Seine, la ville de Nicolas Sarkozy, c'est la liste macroniste qui triomphe. À Sablé-sur-Sarthe, la ville de François Fillon, c'est le Rassemblement National qui l'emporte. Fillon, justement, après une campagne cauchemar et une mise en examen, avait réuni 7 millions de voix en 2017. Entre-temps, eh bien la droite en a égaré 5 millions, dont beaucoup d'électeurs de plus de 60 ans qui apportent traditionnellement de fortes réserves de voix. Ils n'ont été que 12% à voter Bellamy hier. Un œil sur la carte électorale, le parti de Laurent Wauquiez perd quasiment tous ses bastions. Seul le sud du Massif central, Cantal et Haute-Loire fait de la résistance. Mais en Savoie, terre historiquement très favorable à la droite républicaine, c'est En Marche qui finit premier. Dans le quart nord-est de la France, c'est le Rassemblement national. Pas besoin d'en dire plus pour comprendre où est passé cet électorat de droite. Il s'est engagé dans le mano à mano entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.
C'est-à-dire qu'il a privilégié le vote utile en quelque sorte.
Oui, un double vote utile. Une partie de l'électorat de droite a voulu sanctionner le gouvernement actuel et il s'est pour sa tournée vers le mouvement d'opposition crédité du meilleur score, donc le Rassemblement national. Une autre partie de cet électorat, au contraire, a souhaité éviter que le RN soit en tête et s'est donc porté sur la liste En Marche. Alors bien sûr, au moment de chercher les responsable de cette débâcle, François-Xavier Bellamy fera office de cible idéale, trop intello, pas assez offensif, diront les caciques. Plus généralement, il faut convenir que les candidats dits de la société civile n'ont pas brillé dans cette campagne. Bellamy, professeur de philosophie, finit à 8%, Raphaël Glucksmann, essayiste à 6%, Manon Aubry, ex-porte-parole d'ONG, à 6,3%. Pendant ce temps, Jordan Bardella, apparatchik du Rassemblement National, et Yannick Jadot, eurodéputé sortant, sont les deux grands vainqueurs. Confirmant l'idée inquiétante, mais somme toute logique, que faire campagne, c'est un métier.
Mais pour ce qui concerne le siphonnage de la droite, le candidat François-Xavier Bellamy n'est pas en cause, selon vous.
Non, il a dû affronter une difficulté bien plus systémique. Son parti, Les Républicains, se trouve idéologiquement entre La République En Marche et le Rassemblement National, juste au milieu de la tenaille. Laurent Wauquiez a tenté de contester l'hégémonie du parti lepéniste sur les questions d'identité, de conservatisme sociétal, ce qui a laissé un espace au centre-droit, un espace qu'Emmanuel Macron s'est empressé d'occuper grâce à Édouard Philippe, issu de la droite modérée, comme plusieurs de ses ministres. Résultat, on assiste en France à l'émergence d'un duopole macroniste contre lepéniste. Ces deux forces totalisent 45% des suffrages et ne laissent que des miettes aux poursuivants. La troisième force, les écologistes, même si c'est une bonne performance, n'est après tout qu'à 13%. Le duel En Marche contre Rassemblement National fonctionne en fait comme un essuie-glace. Essuie-glace allé en 2017 avec le PS évacué, essuie-glace retour en 2019 avec les Républicains lessivés, qui auraient cru il y a encore 5 ans qu'un jour, dans une élection, deux partis historiques comme le PS et les Républicains totaliseraient à eux deux moins de 15% des voix.
Merci beaucoup Frédéric Saïs pour ce billet politique auquel vont réagir nos invités, car nous sommes en compagnie de confrères, mais en compagnie de confrères européens. Je vous les présente, Marc Vassette qui est correspondant pour le quotidien El País, Maya Szymanowska qui est polonaise et qui rend compte de l'actualité française pour différents médias, polonais Stefano Montefiori qui est correspondant italien du Corriere della Sera, Dani Leder qui est correspondant autrichien du quotidien Courir et Birgit Holzer qui est correspondante pour plusieurs titres allemands et notamment le Berliner Zeitung. Votre point de vue justement, Birgit Holzer, sur la droite française et sur la manière dont celle-ci se sort plutôt mal, nous a dit Frédéric Saïs, de ces élections. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs, des comparaisons par rapport à l'Allemagne ? Expliquez-nous.
On peut faire un parallèle entre les résultats en Allemagne et en France. On voit que les formations traditionnelles attirent de moins en moins les électeurs pour des raisons pas tout à fait pareilles. Je pense qu'en France, on a vu que inscrire les racines chrétiennes dans la Constitution n'est peut-être pas une priorité pour les électeurs. En fait, ces partis traditionnels n'arrivent plus à vraiment proposer quelque chose aux électeurs.
Mais chez vous, ça se passe comme ça aussi? Est-ce que, je ne sais pas, une référence religieuse, est-ce que ça a un sens dans le débat politique allemand?
C'était pas du tout dans le débat politique allemand actuellement, alors que des sujets migration, c'est un des sujets qui déterminant, ou c'était un des sujets déterminants dans cette campagne, mais pas du tout dans ce sens religieux, valeur.
Et être à droite, est-ce que par exemple cela en Allemagne, c'est un étendard qu'on porte? Est-ce qu'au contraire c'est une étiquette encombrante?
Non, je pense que le clivage est quand même là. C'est quand même lié justement aux questions de migration, d'immigration. Comment est-ce que on assure une intégration de nouveaux arrivants musulmans, etc. Mais cette virée qu'a pris à la droite en France avec les Républicains, on n'a pas du tout vu ça en Allemagne.
Stefano Montefiori, vous qui êtes journaliste italien, votre regard sur ce qui s'est passé en France pour ces élections, avez-vous été surpris, vous qui connaissez bien la France ?
Pas trop surpris, à part le résultat des écologistes. Finalement, on s'attendait à ce grand duel Marine Le Pen et Emmanuel Macron, et aussi les résultats confirment un peu les prévisions des sondages. Il y a une spécificité de l'Italie encore une fois cette fois-ci, parce que en Italie, les partis traditionnels de la gauche, les partis démocrates, ont un bon résultat supérieur au 20%, donc il revient le deuxième parti italien, et aussi les résultats combinés de la Ligue du Nord et du mouvement 5 étoiles laissent penser à un possible renouvellement du clivage traditionnel gauche-droite, c'est-à-dire l'un des résultats de cette élection pourrait être un nouveau gouvernement. On verra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, mais on pense que le gouvernement actuel pourrait tomber et un nouveau gouvernement centre-droite avec la Ligue et l'ancien parti de Berlusconi pourrait se réformer. Donc l'Italie va un peu en contre-tendance par rapport à l'effacement des partis traditionnels dont on a assisté en France.
Denis Leder, votre regard d'Autrichien.
Oui, mais vous avez tout à l'heure posé la question, est-ce qu'en Allemagne on peut se déclarer de droite ? Et j'aimerais souligner à ce sujet un malentendu linguistique qui est historiquement intéressant, qui concerne le fait qu'en Autriche et en Allemagne, personne dit je suis droite. En fait, ich bin nicht rechts. Parce que, on dit conservateur, chrétien démocrate, quelque chose comme ça, hein. Mais, quand on dit droite, en Allemagne et en Autriche, c'est synonyme d'extrême droite. Et sur ce malentendu, il y a tout un problème linguistique qui se grève dessus quand on traduit ça en France. Mais j'aimerais souligner, alors très vite, aussi autre chose. Moi, je pense que on fait fausse route, hein, en se creusant la tête sur la crise de la droite classique en France. Le problème principal pour la pérennité de la construction européenne et de l'état de droit démocratique tel qu'on le connaît, émane pas de la disparition d'une partie de la droite classique, mais de l'écroulement de la gauche. Et pourquoi ? Parce que la tendance lourde qui se dégage aujourd'hui et depuis un certain temps, c'est que il y a une fidélisation d'un noyau très important, je dirais. Il est peut-être pas majoritaire absolu, mais majoritaire relatif dans les milieux populaires et ouvriers, derrière l'extrême droite ou le national-populisme selon les pays. Et cette compactisation des milieux populaires, en soustrayant de ça, bien entendu, les primo-arrivants qui bossent dur mais ne sont pas représentés encore politiquement, cette compactisation d'un milieu social, cette fidélisation derrière le national-populisme est lourde de grandes menaces si on ne trouve pas la parade à ce niveau-là.
Maïa Szymanowska, votre regard de Polonaise sur ce qui s'est passé en France, là aussi, est-ce que vous feriez la même analyse que Dani Leder qui la faisait sur l'Autriche, sur le terme de droite par exemple ?
Alors,
est-ce qu'il est aujourd'hui intéressant politiquement de se déclarer de droite en Pologne et par rapport à ce qui s'est passé en France où celle-ci a connu quelques déconvenues lors de la dernière élection ?
Alors, ceux qui ont connu, je crois, une déconvenue lors de ces élections en Pologne, c'est vraiment la gauche. Et il faut dire, il faut rappeler que ce sont les sociodémocrates qui ont fait rentrer la Pologne dans l'Union européenne. C'est eux qui étaient le moteur, en fait, de l'accession de la Pologne à l'UE. Et ce qu'on remarque aujourd'hui dans la presse, les commentaires par rapport à la France, à l'élection en France, c'est bien sûr... tous les journaux relèvent la victoire du parti de Marine Le Pen, et cela crée en Pologne une grande inquiétude parce que pour les Polonais, la France historiquement aussi était le moteur de l'Union européenne. Et là, voyant ce parti anti-européen qui gagne et en Pologne d'ailleurs aussi les élections, on peut se poser la question sur le futur de l'Union.
Et on se la pose aussi en Espagne, cette question, Marc Bassett. Est-ce que là aussi, il y a des inquiétudes, votre regard sur ce qui s'est passé en France.
À mon avis, la surprise en France, c'est que la victoire de Marine Le Pen ne soit plus une surprise. C'est exceptionnel quand même, si on regarde la carte des pays européens, ou au moins des pays européens occidentaux, et on peut faire l'exception avec l'Italie, mais c'est inimaginable en Espagne de penser que Vox, le parti de l'extrême droite, gagnerait les élections. C'est inimaginable, je crois, en Allemagne aussi, de penser que l'AFD serait vainqueur dans les élections. Ici, on a l'impression presque, on avait l'impression hier, en écoutant quelques commentaires, même en écoutant les réactions du parti de la majorité et de l'Élysée, que bon, c'était une petite défaite, mais en réalité, Macron avait résisté, avait même peut-être gagné, parce qu'il avait gardé ses votants. Alors que,
disons que ça n'est pas une première, puisque lors de la dernière élection européenne, il y avait eu un score du Front National, puisqu'à l'époque, ça n'était pas encore le Rassemblement National, à 24,8%.
Oui, voilà. C'est pour ça que je crois que la surprise, c'est que ça ne soit plus une surprise. C'est la normalité en France. Et c'est complètement assumé de voir qu'un parti d'extrême droite gagne les élections.
Et justement, quand vous évoquez, par exemple, le franquisme en Espagne, est-ce qu'il y a des comparaisons? Parce qu'on se dit que l'extrême droite est nécessairement confronté en Espagne à la question du franquisme, quand vous faites un parallèle avec ce qui se passe en France?
Bon, possiblement, s'il n'y a pas eu jusqu'à maintenant un parti d'extrême droite fort en Espagne, l'une des raisons, c'est l'héritage franquiste. C'était difficile pour un parti qui se réclamait ou qui se positionnait dans l'extrême droite d'avoir du succès après 40 ans de dictature franquiste. Aussi, notre explication, c'est que la droite espagnole était très large et prenait du centre jusqu'à l'extrême droite. Tous étaient sous le même chapeau du parti populaire. Et comme dans d'autres pays européens, dans les dernières années, de nouveaux partis sont surgis, et c'est pour ça que Vox est apparu. Mais comme je disais avant, même Vox, dont on a craint en Espagne, certains ont craint en Espagne qu'on aurait un Front National ou un Rassemblement National à l'espagnol, ils ont eu un score très modeste hier soir dans les élections européennes.
Birgit Holzer, là aussi, en Allemagne, le statut de l'extrême droite est évidemment en particulier. Quand on compare ça avec la France, votre regard sur ce qui s'est passé hier?
C'est très juste, on s'est habitué vraiment à un score important du Front National ou maintenant Rassemblement National, alors qu'il était encore plus élevé il y a 5 ans au niveau pourcentage. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est impensable d'avoir au niveau national une extrême droite AFD à plus que 20%. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut rappeler, il y a certaines Länder dans l'est de l'Allemagne où l'AFD est très très fort. Il y a un Land où elle a eu 30% et les premiers partis. Effectivement aussi en Allemagne, forcément pour des raisons historiques, on avait très longtemps pas d'extrême droite populiste, on avait un noyau très dur d'extrême droite nazi. Aujourd'hui, on a aussi un parti populiste extrême droite qui joue dans la cour plus ou moins des grands avec 11% du pourcentage. Mais c'est même pas la moitié de ce qu'a eu le Rassemblement national en France, effectivement.
Justement, comment il évoque l'héritage allemand, parce que là aussi l'histoire particulière est importante, elle compte. Comment font-ils ces membres de l'AFD, Birgit Holzer?
Forcément, ils s'appellent pas du tout des nazis. Ils se distancent de l'histoire. On fait plus du tout le lien, alors que on peut se demander s'il y a un lien ou pas. Mais avec l'arrivée des migrants ou réfugiés, plutôt, surtout en 2015, et aussi un rejet de l'Union européenne, de l'euro, par inquiétude de payer pour les autres, etc. C'est ça le discours de l'AFD des débuts, on dit que c'est un nouveau discours. Forcément, comme en France, on se dit pas raciste, on n'est pas du tout xénophobe. Donc c'est la manière de justifier cette politique, cette vision-là qui est à questionner, bien sûr.
Dany Leder, est-ce qu'en Autriche, le FPÖ regarde le Rassemblement National comme un modèle à suivre? Quels sont les commentaires?
C'est vice-versa. Longtemps, c'était le noyau dur de cette nouvelle droite nationale populiste qui émergeait depuis une vingtaine trentaine d'années en Europe, et surtout c'était une sorte d'idylle, hein, au moment où Marine Le Pen a repris le pouvoir de son père et a rénové d'une certaine manière et modéré le discours du Front National qui allait devenir le Rassemblement National. Donc c'est des partis qui se sont inspirés l'un de l'autre, parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que, je parle maintenant de l'Europe occidentale, c'est des partis qui ont créé une nouvelle offre politique à la droite, de la droite dure conservatrice, mais en tentant de se séparer de leurs racines et concurrents qui étaient encore plus à droite, c'est-à-dire les mouvements fascistes et néo-nazis. Ils ont élargi ils ont creusé ce terrain politique. Et je pense que ce qui est encore une fois, j'aimerais ressouligner, on a eu récemment dans Le Monde un éditorial de l'économiste très fameux maintenant, Piketty, et qui a souligné quelque chose de très important. Alors, quand on regarde les grandes échéances électorales de ces derniers temps, le Brexit, le vote Trump, et maintenant par exemple aussi les élections en France, et à nouveau d'une certaine manière en Autriche et dans d'autres pays, on voit que le camp d'une certaine manière de la droite nationale populiste qu'elle s'incarne sous forme de Trump ou la AfD en Allemagne et ainsi de suite réussit à partir d'un certain moment à vraiment incarner quelque chose de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compact et qui entre en résonance profonde avec un milieu social. Et face à cela, la réponse est dans l'éparpillement dans une offre beaucoup moins compacte, et c'est là-dessus que c'est le principal défi auquel les démocraties européennes doivent faire face.
Maya Szymanowska, depuis, alors, votre regard de polonaise.
Alors, par rapport à Autriche et l'Allemagne, ce qui était inquiétant en Pologne pendant cette campagne, c'est justement la percée de l'extrême droite, et très décomplexée. Une percée on pensait encore cette nuit que ce parti, la Confédération, il s'appelle Confederatia, passerait le seuil des 5% requis. Mmh. Visiblement, les Polonais viennent de compter les voix que ce matin. Mmh. Visiblement, ce groupement n'a pas percé, mais il a été très virulent pendant la campagne.
Mais alors, quoi il se distingue de la coalition au pouvoir? Parce que le PiS n'est pas précisément à gauche. Qu'est-ce qui les distingue?
Non. On peut tout reprocher à Jarosław Kaczyński, je pense pas qu'on puisse dire qu'il soit antisémite. En revanche, la Confederatia a organisé une marche, imaginez-vous, à Varsovie, suivie par 2000 personnes, contre la restitution des biens juifs. Ils sont ouvertement homophobes, ils sont ouvertement racistes, contre l'étranger, vraiment un langage extrêmement décomplexé qu'on n'a jamais vu avant en Pologne, qui a aussi un passé assez lourd en ce qui concerne surtout l'antisémitisme, pardon, j'arrive même pas à prononcer ce mot. cette confédération a, je pense que c'est la différence avec les pays comme l'Allemagne et l'Autriche, où cette langue est à cause, bien sûr, des conservateurs au pouvoir, qui ont utilisé aussi un langage beaucoup plus décomplexé dans les médias publics qu'ils sont en train de truster, qu'ils ont mis à part. En fait, les médias publics en Pologne sont devenus la voie de propagande des conservateurs au pouvoir. Donc, à partir, on remarque, depuis l'arrivée du droit de la justice au pouvoir, la radicalisation de ce langage très extrême droite.
Et l'autre enseignement de cette élection en France, mais aussi à l'échelle européenne, alors avec des variations en fonction des différents pays, bien entendu, sont les graves problèmes de la social-démocratie. Alors certains annoncent son agonie, d'autres sont plus optimistes. Vous, vous en pensez quoi, Stefano Montefiori, qui est correspondant pour le quotidien Corriere della Sera, donc en Italie?
Oui, en Italie, comme je disais tout à l'heure, finalement la social-démocratie a eu un score pas mal hier soir, parce que le Parti démocrate est rené, peut-être, il arrive deuxième au 20%, et on assiste peut-être en Italie, mais d'ailleurs peut-être dans d'autres pays européens, à un changement du camp souverainiste populiste. On a souvent parlé du populisme, du souverainisme qui est soit de gauche, soit de droite. En Italie, la composante de gauche s'est effondrée, parce que le mouvement 5 étoiles a un très mauvais score, et c'est plutôt la Ligue qui a qui a eu un très bon succès, une ligue qui est de plus en plus traditionnellement et classiquement d'extrême droite plutôt que populiste. La Ligue de Salvini a ouvertement utilisé des symboles, un langage pas trop loin du fascisme. Matteo Salvini a publié un livre avec une maison d'édition ouvertement fasciste. Ça a provoqué pas mal de polémiques au salon du livre, mais lui il a revendiqué ses choix comme un choix normal. Donc peut-être une nouvelle tendance qu'on peut voir.
Et c'est suivi par ses électeurs ou bien ceux-ci considèrent que tout cela est finalement à mettre de côté par rapport à la politique qui les suit,
Stéphane Montefiore. Évidemment, c'est pas le centre de la révolution du fascisme, c'est pas absolument le centre de la politique de la Ligue, mais il y a tout un jeu des clins d'œil, des utilisations de certains symboles, même la proximité avec des composantes carrément fascistes comme Casa Pound ou avec cette maison d'édition.
Mais c'est quand même étonnant parce qu'on en discutait tout à l'heure avec l'Espagne et avec l'Allemagne, l'expérience de Mussolini est jugée rétrospectivement comme étant une expérience intéressante, je ne sais pas.
Mais à ce propos, j'ai interviewé hier Géraldine Schwartz, la journaliste franco-allemande qui a écrit ce livre très intéressant, je trouve, Les Amnésiques. Sa thèse est que dans certains pays il y a tout un travail de mémoire qui n'a pas été fait grâce au fait qu'il y avait le grand coupable, l'Allemagne, qui était responsable de la Shoah. En Italie c'est un peu vrai, on s'est toujours raconté l'histoire que le fascisme italien était une dictature à l'eau de rose, une dictature plus douce, voilà, et que les grands méchants étaient les nazis. Et nous-mêmes on s'est raconté l'histoire qu'on avait été victime des nazis avec l'occupation du nord de l'Italie, et donc peut-être tout ce travail de prise de distance par rapport à notre passé a été un peu effacé.
Tout autre chose, Birgit Holzer, l'Allemagne dans le débat politique français existe, souvent d'ailleurs comme une sorte d'épouvantail, ou en tout cas le responsable d'un certain nombre de mots français ou européens, l'austérité, un partenaire qui ne joue pas le jeu. Comment c'est perçu depuis l'Allemagne, ça ?
Ça dépend. Je pense que l'Allemagne prend ce rôle, forcément. Elle a surtout pris pendant la crise de l'euro face à la Grèce, où elle a quand même imposé ses choix. Je pense qu'elle assume, ou en tout cas le gouvernement actuel assume, parce que c'est ce que ses électeurs attendent d'elle. Après, je voudrais souligner que l'Allemagne se voit comme un pays carrément pro-européen. C'est les partis pro-européens qui ont gagné avec au total plus que 70%. Il y avait une participation de plus que 60%, ce qui est important. Donc ça montre quand même une appartenance assumée à l'Union européenne. Mais comme vous posez la question, l'Allemagne est souvent vue comme un épouvantail en France. La France est vue en Allemagne aussi comme le pays qui est de moins en moins un partenaire fiable, parce que avec Emmanuel Macron au pouvoir, il y a de nouveau une nouvelle ambition cette ambition a toujours existé, mais de former un contrepoids. Donc ça pose des questions en Allemagne, bien sûr.
Est-ce que ça en pose, par exemple, en Espagne également? Est-ce qu'on assiste, Marc Bassett, à une vision de la France comme étant un moteur de l'Europe ou au contraire comme un pays malade?
Je dirais qu'en Espagne, on est presque tous les partis les plus forts en Espagne sont alignés dans la politique européenne de la France. C'était le cas avec le Premier ministre précédent de droite, Mariano Rajoy, qui était un allié de Macron dans l'Europe. C'est le cas, je dirais, encore plus maintenant, depuis un an que Pedro Sánchez, social-démocrate, est Premier ministre en Espagne. Il est, je dirais qu'il est presque sur la même ligne que Macron dans les plans de réforme européenne. Je dirais même que c'est l'un des seuls alliés que Macron a aujourd'hui en Europe, vu que l'Allemagne, que la chancelière Angela Merkel ne suit pas Macron dans tous ses projets de réforme européenne. Je crois que c'est les sociaux-démocrates portugais espagnols qui sont les principaux soutiens de Macron dans l'Union européenne.
Et à contrario, en Autriche, oui. Dany Leder.
Oui, il y a une tendance lourde en Autriche et je pense aussi en Allemagne d'une certaine manière à se méfier du projet intégrationniste, plus centralisateur, disons plus partageur hein, au niveau social, économique, fiscal que porte Macron, du moins dans son discours, parce que bon, l'idée est là qu'on va supporter des boulets. Hein. Je vais dire que les Allemands qui travaillent mieux, qui travaillent plus, qui méritent cela, hein, c'est vrai aussi pour l'Autriche, devraient ensuite payer pour le Club Med. Hein. C'était déjà la réaction vis-à-vis de la Grèce. Et j'aimerais souligner que ça, c'est bien entendu un point important qui en fait sépare hein, le parti de la droite radicale autrichien, le FPE, du Rassemblement National, puisque leur alliance à ce niveau-là est une alliance de dupes, puisque le FPE veut en fait fondamentalement virer les pays du Sud de l'euro et garder l'euro, s'il faut le garder, de leur point de vue, dans une sorte de club des pays d'Europe centrale, d'Europe du Nord, ceux qui travaillent mieux, qui ont moins de chômage, tandis que, bon, on sait que Marine Le Pen continue à vouloir faire exploser la monnaie unique en faveur d'une souveraineté monétaire par le biais d'une banque nationale revitalisée française.
Et justement, parce qu'il y a aussi quand même un clivage important en Europe entre les pays qui, sur le plan économique, vont plutôt bien et ceux qui ont plutôt des difficultés. La Pologne, actuellement, va plutôt bien économiquement, et comment observe-t-elle les questions sociales, économiques qui se posent en France, Maya Szymanowska?
Je crois que ça, c'est une des raisons de la victoire des conservateurs au pouvoir. C'est cette économie polonaise qui va très très bien, à faire pâlir vraiment tous les autres pays européens. Le produit en est, je crois, 3,5% de développement du PNB, du PIB. Il n'y a pas de chômage en Pologne. Le chômage baisse d'une manière très rapide. Au contraire, les conservateurs maintenant ont le problème de trouver des gens qui vont travailler en Pologne.
Les inégalités, est-ce que c'est un thème dans la campagne? Parce qu'en France, comme vous l'avez entendu...
C'est un thème crucial. Et justement, Droit et Justice s'est emparé de ce thème. Et c'est eux qui ont introduit les fameuses allocations familiales pour le premier enfant. Maintenant, ils parlent d'en introduire d'autres pour le second, pour les retraités. Donc c'est vrai, c'est eux qui se sont emparés de ces thèmes-là, qui ont été malheureusement délaissés par les libéraux qui ont été au pouvoir précédemment en Pologne. Et cette manque de justement distribution de richesses avec une capitale qui marche très bien, avec une Pologne de l'Ouest qui est ancrée à l'économie allemande. Par rapport à ça, la Pologne de l'Est, le bassin minier, toutes ces inquiétudes, et on le voit d'ailleurs dans les urnes, c'est le sud de la Pologne et la Pologne orientale qui a voté majoritairement pour Droit et Justice.
Un petit mot, Stefano Montefiori, sur la situation en Italie, alors là, qui est différente, puisque l'Italie a en partie les mêmes problèmes économiques que la France.
Oui, et peut-être plus grave que la France. Je pense que l'un des enjeux des prochains mois, ce sera de voir si la situation économique s'améliore, et surtout comment l'Italie va faire passer certaines mesures économiques au reste de l'Europe. L'un des enjeux, ce sera de voir si l'Italie obtiendra une certaine compréhension ou pas de la part de la Commission européenne.
Merci pour ce regard européen et je rappelle le titre de vos différents journaux quotidiens. Courir pour vous, Dany Leder. Merci Birgit Holzer, vous êtes notamment correspondante pour le Berliner Zeitung. Stefano Montefiori, correspondant pour le quotidien italien Corriere della Sera. Maya Szymanowska, journaliste polonaise que l'on peut entendre notamment sur RFI ou bien également pour France 24. Et enfin, Marc Bassett pour le quotidien espagnol El País et Dany Leder du quotidien Courir, du quotidien autrichien.